demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 3 décembre, nouvelle journée de blocage des taxis pour les automobilistes lyonnais. A noter qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi se tient le 72e congrès national de l'UMI à Lyon. Élus, professionnels, chefs d'entreprise, responsables syndicaux sont attendus pour évoquer les nouveaux enjeux, les ambitions et l'avenir de l'hôtellerie et de la restauration. Les petits frères des pauvres recherchent des bénévoles pour renforcer les équipes pour les 24 et 25 décembre. Ce mardi, c'est la journée internationale des personnes handicapées. La ville de Lyon a décidé de marquer le coup en baptisant le parvis devant le musée des Confluences, parvis Judith Oman. Reportage dans cette édition. Et puis en football, la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais se déplacera dans le Nord pour affronter une équipe de N2.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une nouvelle journée de blocage attend donc les automobilistes ce mardi. L'intersyndicale des taxis a pris la parole au milieu de la place Bellecour hier soir, une place transformée en gigantesque parking. Les chauffeurs ont décidé de reconduire le dispositif déployé hier, dispositif qui a provoqué de nombreuses perturbations. Des blocages similaires à ceux d'hier, donc sur l'A7, l'A42, l'A43, l'A46, l'A450, la Rocade Est, la M6. Tous ces axes sont susceptibles d'être bloqués encore aujourd'hui, mais aussi des rassemblements devant les hôpitaux Édouard Herriot, Lyon Sud, Cardio ou encore Medipôle. La Fédération Nationale des Taxis Indépendants laisse entendre que le mouvement pourrait perdurer jusqu'à la fête des Lumières. Le préavis de grève court désormais jusqu'au 8 décembre. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi, le 72e congrès national de l'UMI se tient à Lyon et rassemble plus de 600 élus, professionnels, chefs d'entreprise, responsables syndicaux, pour évoquer les nouveaux enjeux, les ambitions et l'avenir de l'hôtellerie et de la restauration. Le thème « Ici, on innove » pour mettre en lumière les avancées technologiques qui révolutionnent le secteur, avec au programme des tables rondes, des ateliers, des animations, par exemple sur l'IA, l'intelligence artificielle, la transition énergétique ou encore des réflexions sur le management. Pour le président confédéral de l'UMI, Thierry Marx, ce congrès sera ainsi l'occasion de voir comment les innovations façonneront les orientations futures du secteur. Parmi les invités, la philosophe Julia de Funès présente ce mardi en qualité de grand témoin. La ministre déléguée à l'économie du tourisme, Marina Ferrari, clôturera le congrès jeudi. On compte 23 dépôts de bilan en France chaque jour dans l'hôtellerie-restauration, rappelle l'UMI. Le gouvernement avait assoupli les règles d'utilisation des tickets restaurants, les étendant en grande surface, un manque à gagner cumulé de 575 millions d'euros pour les restaurateurs, selon l'UMI, qui réclame la fin de cette souplesse d'utilisation. Les petits frères des pauvres recherchent des bénévoles pour renforcer les équipes pour les 24 et 25 décembre. Une visite de Noël au domicile d'une personne âgée, accompagnée par l'association, en lui offrant le cadeau de Noël et en partageant avec elle un moment chaleureux, participer à un repas de Noël organisé par les petits frères des pauvres, ou encore être bénévole chauffeur en conduisant les invités au repas de Noël et en les raccompagnant ensuite à leur domicile. Ce sont quelques-unes des tâches à réaliser pour devenir bénévole aux petits frères des pauvres. Un numéro de téléphone, le 04 72 78 52 52. On peut aussi écrire via le mail region.aura@petitsfrèresdespauvres.fr.
Pour nous écouter, téléchargez l'appli Lyon demain.
Ce mardi 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. La ville de Lyon a décidé de marquer le coup en baptisant le parvis devant le musée des Confluences, parvis Judith Oman. Cette femme est une militante américaine, une véritable icône de la lutte pour les droits des personnes en situation de handicap. C'est la première fois que son nom est d'ailleurs donné à un espace public dans le monde. Cette démarche s'inscrit non seulement dans le plan handicap, mais aussi dans la dynamique de féminisation des rues. Les explications avec Charlie Gouillet.
Le parvis devant le musée des Confluences porte désormais le nom de Judith Oman, militante américaine reconnue internationalement comme une leader dans la communauté des personnes handicapées. Ce geste s'inscrit dans le cadre du plan handicap et symbolise un pas de plus pour les droits des personnes en situation de handicap. L'hommage rendu à Oman, décédé au printemps 2023, est d'une portée immense, comme le souligne Laurent Bossetti, adjoint au maire de Lyon en charge du handicap.
L'idée pour nous, c'était de saluer, de rendre hommage à une personne militante américaine qui a défendu les droits des personnes handicapées dans les années 70. Elle est le symbole de l'égalité des droits vers lequel on doit tendre. C'est aussi une personne qui porte activement la question de l'antivalidisme. Le validisme, c'est les représentations justement qu'on se fait des personnes handicapées dans une vision souvent paternaliste et extrêmement médicalisée. Et l'idée, c'est de revenir au fait que les personnes handicapées sont des personnes tout à fait ordinaires et que c'est souvent la société qui érige des handicaps, l'environnement quand il n'est pas travaillé en faveur des personnes handicapées qui érige des handicaps. Donc c'est une lutte en faveur des droits. Et aujourd'hui, nous sommes la première ville au monde à avoir un espace public au nom de Judith Heumann et c'est un symbole fort pour la conquête des droits.
Pourquoi avoir choisi cette personnalité en particulier ?
Eh bien parce que derrière la lutte de Judith Heumann qui a fait progresser le droit américain, Judith Heumann a également en cascade fait progresser les droits internationaux avec la fameuse Convention internationale des droits des personnes handicapées. Après avoir œuvré comme militante de terrain, elle a participé aux travaux législatifs dans ces domaines et du coup travaillé dans les instances de l'ONU pour faire avancer le droit international.
Et donc le musée des Confluences, pourquoi ce lieu ? Est-ce qu'il y a une raison particulière ?
Alors on cherchait bien sûr sur la ville de Lyon un lieu qui nécessitait une dénomination, un nouvel espace public. Le parvis du musée des Confluences n'avait pas de nom et il nous a paru intéressant sur un équipement culturel qui a une vocation internationale, qui accueille touristes également du monde entier, et bien d'avoir une dénomination d'une personnalité internationale qui a porté des droits et qui nous semblait le lieu opportun.
Et dans une autre mesure, est-ce que ça rentre aussi dans l'idée de la féminisation des rues ?
Alors ça s'inscrit par ailleurs dans la féminisation des rues qu'on porte sous ce mandat, puisque statistiquement on a beaucoup plus de noms de rues d'hommes historiquement que de femmes. Donc on a cette idée à un moment donné de mettre à l'honneur les femmes qui ont elles aussi fait l'histoire, et Judith Heumann en fait partie. C'est une belle démonstration. On pourrait d'ailleurs envisager des noms également demain de militantes, des personnes handicapées françaises également.
Judith Heumann s'est notamment rendue célèbre en 1977 lorsqu'elle a organisé un sit-in de 25 jours à San Francisco, le plus long jamais connu à ce jour dans un établissement fédéral. À savoir qu'un sit-in est une forme de protestation pacifique où les militants occupent un lieu public pour revendiquer leurs droits. Cette action protestait contre le retard de l'application de la loi 504 des droits civiques qui interdisait la discrimination envers les personnes handicapées. Rick Heumann, frère de Judith, nous raconte l'histoire de sa sœur. Ma sœur a contracté la polio à l'âge de 2 ans. Mon père était un ancien marine du corps des marines des États-Unis et ma mère était une militante de quartier et ils se sont battus pour ma sœur car à l'époque, l'école normale ne l'ont pas acceptée à l'âge de 5 ans. Elle n'a pu aller à l'école qu'à l'âge de 9 ans. Plus tard dans sa vie, elle a pu aller dans un lycée normal. Elle est allée à l'université et voulait enseigner, mais le conseil de l'éducation n'a pas voulu lui accorder de licence. Nous sommes donc allés au tribunal avec ma famille et elle a obtenu l'autorisation d'enseigner à New York, ce qui a fait d'elle la première personne en fauteuil roulant à enseigner dans cette ville. Elle a ensuite poursuivi ses études à Berkeley pour obtenir un master. C'est là-bas qu'elle a créé le World Institute for Disability au début des années 80. Elle a ensuite beaucoup œuvré pour les droits des personnes handicapées. En 1977, elle a mené le plus long sit-in à ce jour dans un bâtiment fédéral, 25 jours, pour obtenir ce que l'on appelle la section 504. Dans les années 90, elle a travaillé pour le président Clinton pendant 8 ans. Elle a travaillé pour la Banque mondiale. Elle a été boursière Ford. Elle a travaillé pour le président Obama pendant 8 ans au département d'État en tant que défenseur des droits des personnes handicapées dans le monde. Judith s'est donc battue pour les droits des personnes handicapées depuis l'âge de 2 ans jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que cela représente pour vous et pour les personnes handicapées d'avoir ce parvis à son nom ? C'est un honneur extraordinaire que les gens qui voient son nom sur la plaque et qui le cherchent sur Google ou peu importe de quelle manière découvrent cette courageuse combattante. Lorsque les gens me posent des questions sur ma sœur, je leur dis de chercher son nom sur Google parce que je ne peux l'expliquer que de manière très limitée et personnelle. Quand les gens viendront ici, ici, qu'ils verront la plaque et qu'un parvis comme celui-ci porte son nom, ils découvriront qui elle était. Quel héritage aimeriez-vous qu'elle laisse à la ville et au monde en général? Son héritage, c'est que les personnes handicapées ne sont pas différentes des autres, qu'elles ont les mêmes droits, qu'elles ne devraient pas être séparées. Elle voulait s'assurer que tout le monde ait accès à tout, qu'il s'agisse d'un handicap connu ou caché, et que tout le monde puisse profiter de la vie.
Merci Charles Elie. Le parvis Judith Oeman se situe à l'entrée du musée des Confluences. 4 années consécutives avec 4 fleurs, Caluire décroche cette fois-ci la Fleur d'Or, un label qui confirme la haute qualité de vie de la commune, estime son maire Philippe Cochet. La précieuse distinction sera remise ce mardi à Paris-Salgao. Notez que ce titre de prestige a été décerné à seulement 8 communes en France cette année. C'est aussi une grande première pour une commune du Rhône et de la métropole. Football, la Coupe de France, l'Olympique Lyonnais se déplacera dans le Nord pour affronter une équipe de N2 en 32e de finale. Les Lyonnais joueront face à l'équipe de Feigny-Aulnois, 7e de sa poule dans le championnat de National 2. Un tirage plutôt favorable pour les Lyonnais de Pierre Sage, finaliste de la dernière édition de la Coupe. L'Olympique Lyonnais s'est incliné contre le Paris Saint-Germain. Un nouvel entraîneur va débarquer au Loup dans les prochains jours. La 5e défaite d'affilée en top 14 a convaincu les décideurs lyonnais qu'il fallait réagir avant qu'il ne soit trop tard. Après la défaite à Pau ce week-end, Fabien Gengenbacher et le président Yann Roubert sont à la recherche de nouvel entraîneur principal pour remplacer Jono Gibbs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une prochaine édition. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.